Et bonjour à tous, ça y est, nous sommes de retour au congrès de l'association Ville de France. Nous sommes à Roanne pour cette deuxième journée de congrès et j'ai le plaisir de vous retrouver ce matin pour parler d'un sujet intéressant qu'on aborde assez peu souvent, celui du commerce illicite du tabac. Habituellement, on peut considérer que c'est un sujet douanier ou un sujet fiscal. Et en fait, c'est un sujet aussi très concret pour les territoires. Commerce de proximité fragilisé, vente à la sauvette, réseau organisé, sécurité des centres-villes. Pour parler de tout ça, je reçois Daniel Bruckel. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef du service prévention du commerce illicite chez Philippe Maurice France.
Tout à fait.
Alors, j'avoue Daniel que c'est la première fois que je parle de ce sujet. Peut-être rappeler qui est Philippe Maurice, qu'on connaît si on est consommateur de cigarettes, qui a un nom qui est assez ancien, je crois.
Oui, tout à fait. Effectivement, historiquement, Philippe Maurice est un manufacturier de tabac qui détient la plus grande marque vendue au monde et en France. Mais c'est surtout une société qui, depuis 10 ans, a fait le pari de s'auto-disrupter et de sortir du monde de la cigarette pour aller vers des produits de la nicotine sans combustion. Donc aujourd'hui, c'est 43% de revenus mondial. Donc c'est une histoire qui est en marche.
Alors Daniel, je le disais en introduction, le commerce illicite de tabac, de quoi on parle exactement ?
En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui en France, on a une prédominance assez forte de produits illicites, que ce soit des cigarettes de contrebande ou de contrefaçon, qui envahissent le territoire. On a à peu près 40% de la consommation de cigarettes en France qui sort de ces deux types de produits.
Conséquent.
C'est extrêmement conséquent. Et la contrefaçon, elle toute seule, c'est 20%. Ce qui fait quand même 480 millions de paquets contrefaits consommés en France chaque année.
Et est-ce que vous diriez que ce phénomène s'est accentué les dernières années ? Est-ce qu'il a changé aussi ? Avant, est-ce que c'était pas un trafic de frontières et on est passé à des réseaux beaucoup plus structurés, beaucoup plus mobiles, plus numériques aussi peut-être ?
Oui, vous avez complètement raison. On va dire que l'année de bascule, c'était de 2020, où avant 2020, on avait plutôt des flux effectivement frontaliers d'avantages de prix avec les pays qui nous entourent, où on avait des consommateurs qui allaient à la faveur de la proximité de la frontière ou de vacances. Ouais. Ramener quelques cartouches moins chères. Et en 2020, avec le confinement, donc l'impossibilité d'aller à l'étranger, les consommateurs se sont tournés vers d'autres filières. En plus, le paquet de cigarettes est passé à 10 euros à cette époque-là. Et du coup, ils ont découvert qu'il y avait les réseaux sociaux où on pouvait trouver des paquets contrefaits à moins de 5 euros. Et puis, l'habitude faisant, le confinement étant levé, ils ont continué à aller dans ces réseaux-là. Il y a la vente à la sauvette qui s'est développée aussi dans les rues. Hein. Si on prend Paris, par exemple, on avait 5 points de deal, ouais. Type Barbès, La Chapelle, dans Paris Intra. Aujourd'hui, on en a plus de 80 en Ile-de-France.
Wow.
Donc ça prend, c'est la même chose à Lyon, à Marseille, à Nantes. Et puis le dernier phénomène qui s'est fait jour, c'est la vente dans les épiceries de nuit. Aujourd'hui, on a 30% des épiceries de nuit qui vendent des cigarettes. Mais aussi des POF qui sont des cigarettes électroniques jetables qui sont interdites depuis plus d'un an et demi maintenant, ou des sachets de nicotine qui sont également interdits à la vente. Donc on voit qu'on a un élargissement assez large du portefeuille de produits qui est vendu illégalement sur différents canaux et qui touche directement les territoires. C'est quand vous avez des commerces type épicerie de nuit qui se développent.
Oui.
Où on retrouve aussi d'autres produits légaux qui peuvent être vendus, etc. C'est un vrai impact pour le tissu commercial légitime, on va dire, au sein d'une ville. C'est aussi un facteur de décommercialisation d'un centre-ville. C'est une problématique pour les riverains.
C'est ça.
Et quand vous ajoutez à ça la vente à la sauvette, vous commencez à avoir beaucoup de problématiques de sécurité publique et de voie publique qui se font jour.
Excellente passe décisive. J'allais vous poser la question, on est ici au congrès Ville de France, en quoi c'est un sujet qui préoccupe les maires ? Alors avec ce que vous me dire, j'imagine qu'ils sont assez attentifs à ces problématiques-là.
Oui, ils sont assez attentifs à la problématique, mais c'est aussi quelque chose qui est pas visible. C'est-à-dire quand vous prenez de la vente dans des épiceries de nuit, c'est pas sur la voie publique, donc c'est difficile à identifier. Donc il faut qu'il y ait une conscience que ça puisse exister. C'est pour ça que quand on parle de ces chiffres de 30%, mais qui montent à 40-50% dans un certain nombre de villes, ça devient un facteur d'alerte pour le maire, en l'occurrence. Et donc ça provoque derrière une sensibilisation sur le sujet, un focus plus grand sur le traitement de la problématique.
J'imagine aussi qu'il y a un impact pour les buralistes, c'est-à-dire le canal de vente traditionnel, est-ce qu'on arrive à le mesurer ?
Le commerce de proximité par excellence, c'est effectivement le buraliste, et l'impact effectivement est frontal pour eux. Hein. Je crois que là, la moyenne de perte de marge brute d'un buraliste, c'est 40 000 euros.
Okay.
De par ces trafics, donc c'est conséquent. Il y a des fermetures de bureaux de tabac qui s'enchaînent d'année en année face à ces problématiques-là. Et effectivement, quand vous avez une épicerie à 50 mètres de chez vous qui vend des cigarettes trois fois moins chères que dans votre bureau de tabac, ça pose un problème économique pour les buralistes, un problème de santé publique aussi derrière. Parce que le buraliste, lui, contrôle l'accès des mineurs aux produits. Dans une épicerie, vous n'avez pas de contrôle. Dans la rue, vous n'avez pas de contrôle. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de contrôle. Donc c'est un vrai sujet de santé publique pour les consommateurs.
Et est-ce que les maires, ils ont des actions, des leviers à actionner pour pouvoir faire face à ce phénomène ? Est-ce que c'est d'abord une affaire de douane, de police, de justice ? Comment ça marche ?
En fait, il y a une mobilisation assez large à faire, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses à ce type de phénomène. Il peut y avoir une réponse de par le préfet sur des CODAF, par exemple, avec effectivement des contrôles qui sont faits par plusieurs autorités, douane, police, gendarmerie, URSSAF, etc., qui est un volet administratif, mais il y a aussi un volet pénal qui peut être déclenché, notamment quand vous faites de la vente de contrefaçon dans ces établissements. C'est là où on apporte notre support, puisqu'on peut identifier l'authenticité des paquets et certifier qu'ils sont contrefaits le cas échéant, ce qui peut ouvrir un volet pénal qui donne des sanctions pénales plus fortes, des sanctions de fermeture d'établissements qui peuvent être plus fortes que ce que peut décider le préfet au cours d'un CODAF. Donc il y a des leviers qui sont méconnus aujourd'hui, mais qui peuvent être beaucoup plus dissuasifs quand on les connaît.
Alors il y a un effet dissuasif sur le tabac, c'est la fiscalité qui est liée au tabac. Évidemment, elle a été donc pensée comme un outil de santé publique, mais certains disent qu'au-delà d'un certain niveau de prix, en fait, elle nourrit un marché parallèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre ?
Je crois que c'est une réalité. Quand on voit la courbe de consommation qui est restée quasiment stable depuis 10 ans en France, on voit la courbe de vente des buralistes qui baisse. Ouais. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un écart qui est un marché parallèle. Si vous avez un nombre de consommateurs constants et des volumes légaux qui baissent, c'est qu'il y a une consommation qui vient d'ailleurs. Donc je pense que ça, c'est un phénomène qui est clairement établi. Après, la solution, elle n'est pas unique. Mais je crois que le premier facteur auquel il faut s'intéresser, c'est le fumeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique du développement de la contrefaçon et de ces réseaux dont on a parlé, c'est qu'elle enferme le fumeur dans la consommation de cigarettes.
Ouais.
Et du coup, tant qu'on n'a pas cette approche pour s'intéresser au fumeur et lui donner accès à des alternatives qui sont moins nocives que la cigarette, avec un avantage compétitif et économique par rapport à la contrefaçon, je rappelle qu'un paquet de contrefaçon, c'est entre 3 et 5 euros.
Ouais.
Un paquet de cigarettes chez Buraliste, c'est 13. Donc si vous voulez à un moment donné dissuader le fumeur de fumer une cigarette quelle qu'elle soit, il faut lui donner des possibilités d'aller sur d'autres produits de la nicotine. Le mieux c'est qu'il arrête la consommation de nicotine, et s'il ne peut pas ou il ne veut pas, il faut lui donner la possibilité d'aller sur d'autres produits qui vont diminuer du coup la consommation de cigarettes, donc la consommation de cigarettes illicite.
Daniel, quand on s'appelle Philippe Maurice France, comment faire pour éviter que sa prise de parole soit perçue uniquement comme celle d'un industriel qui défend son marché ?
Écoutez, je pense que c'est assez simple. On a un engagement qui est assez fort de société responsable. Philip Morris International a annoncé depuis plus de 10 ans maintenant sa sortie de la cigarette. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain.
Ouais.
Mais aujourd'hui, au niveau mondial, les autres produits de la nicotine représentent 43% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une montée en puissance sur 10 années qui est assez exceptionnelle. Donc c'est un chemin qu'on poursuit, et lutter contre les trafics nous aide à aller sur ce chemin-là et aide la société avec un grand S à aller sur ce chemin-là.
Allez Daniel, si vous aviez un message à adresser à tous ces maires qui sont présents ici au Congrès Ville de France, ce serait lequel ?
Écoutez, je pense qu'il faut rester vigilant. On parle beaucoup des narcotrafics, à juste titre. Mais on a ces trafics de tabac qui sont rampants, pas forcément visibles de manière évidente. Donc il faut rester attentif là-dessus. Parce que c'est un trafic qui génère 2,5 milliards d'euros de revenus criminels chaque année, ce qui est quand même assez conséquent. Et qui fait que ça s'installe de plus en plus, parce que vous avez de plus en plus de demandes de par l'augmentation des taxes. Donc c'est un narcotrafic au final qui va remplacer le narcotrafic aujourd'hui, qui va venir le compléter. Et du coup, on va se retrouver avec un deuxième phénomène avec tout ce qu'on connaît dans les trafics de stupéfiants, de violences, etc., qui va se développer au cœur des villes.
Plus de coopération pour lutter contre ce trafic. Merci beaucoup Daniel Bruckel, vous êtes chef du service prévention du commerce illicite chez Philippe Maurice France. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.